Chapitre 2. C'est Monsieur Gris, membre des services sociaux de la ville, qui annonça à Juliette qu'elle irait vivre en Afrique, plus exactement au Cap, en Afrique du Sud. « Au Cap ? » s'écria Juliette. « En Afrique du Sud, mais pourquoi ?»« Eh bien, expliqua-t-il, parce qu'il semble que le seul parent que tu aies vive dans une réserve animalière là-bas. » Une certaine Gwen Thomas, dont on m'a dit que c'était ta grand-mère. « Je n'ai pas de grand-mère, » répondit calmement Juliette éberluée. Monsieur Gris fronça les sourcils. Il sortit ses lunettes de sa poche et consulta à nouveau son dossier. « Non, je t'assure, il n'y a pas d'erreur. J'ai sa lettre sous les yeux. » Et il tendit à Juliette une feuille de papier à lettres blanc crème. « Cher Monsieur Gris, » Je vous remercie de la lettre de condoléances que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer après la disparition tragique de ma fille, Véronica Allen, et de son mari David, deux personnalités exceptionnelles. Je ne savais pas que Véronica avait demandé que j'aie la garde de sa fille Juliette, au cas où quoi que ce soit leur arriverait. Néanmoins, j'assume cette responsabilité. C'est le minimum que je puisse faire. Je vous joins par la présente un billet d'avion pour le Cap, ainsi que la somme de 150 livres pour les besoins de ma petite fille. Je vais rarement en ville, et je vous saurai gré de vous assurer qu'elle possède des tenues adaptées au climat d'Afrique du Sud. Amicalement vôtre, Gwen Thomas. Quelque chose dans le ton de la lettre chiffonnait Juliette. Sa grand-mère n'avait pas l'air vraiment ravie à l'idée de l'accueillir. Au contraire, elle donnait plutôt l'impression que Juliette serait un poids. Dire qu'elle avait déjà du mal à accepter de lui acheter des vêtements d'été. Certes, elle adorait les parents de Juliette, mais ça ne signifiait pas qu'elle avait envie qu'on lui impose leur fille. Et son grand-père, elle n'y faisait pas la moindre allusion. « Je refuse d'y aller, » dit Juliette en rendant la lettre à Monsieur Gris. « Ma grand-mère ne veut pas de moi ?» Et il est hors de question que j'aille habiter chez quelqu'un qui ne veut pas de moi. Plutôt me pendre, oui ? » Monsieur Gris répondit par un regard consterné. Il avait déjà eu une matinée éprouvante, et il sentait que ça allait être pire. Qu'avait-il donc fait pour que sa directrice lui confie systématiquement les cas les plus délicats ? « Mais, Madame Thomas est ton tuteur légal. Je n'irai pas. » répéta-t-elle avec entêtement. « Et vous ne pourrez pas me forcer. » Monsieur Gris rassembla ses papiers en vrac, renversant un verre d'eau au passage. « Je reviens tout de suite, » dit-il, sans faire attention à la petite flaque d'eau qui transformait ses papiers en aquarelle. « J'ai un coup de fil à passer. » Juliette demeura assise, le regard rivé sur le papier peint noirci par la fumée qui recouvrait les murs du bureau, beaucoup plus inquiète qu'elle ne voulait bien l'admettre. Elle venait de vivre plusieurs semaines dans la confusion la plus totale. Pendant les 5 jours cauchemardesques qui avaient suivi l'incendie, elle avait vécu chez les Morrison, jusqu'à ce que leur fils rentre d'un tournoi de rugby. Puis elle était allée chez une amie de sa mère, incapable de s'occuper d'une enfant en deuil. Enfin, on l'avait envoyée chez Miss Rose, son professeur d'anglais, qui avait accepté de la prendre en charge jusqu'à ce que l'on sache que faire d'elle à plus long terme. Partout où elle allait, les gens l'accueillaient avec d'immenses sourires et lui prodiguaient 1000 conseils pour tenir le coup. Mais dès qu'elle quittait la pièce, elle entendait une série de murmures où ne cessaient de revenir les mots « orpheline » et « toute seule au monde ». Elle était trop perturbée et trop affectée pour y prêter vraiment attention. Très souvent, elle était en proie à une sensation violente de chute, comme si elle tombait dans un puits sans fond. Elle n'avait plus ni faim ni sommeil et ne pleurait plus. Elle était hantée par la question « pourquoi ?» Pourquoi avait-elle été sauvée, elle, et pas ses parents ? C'était d'une injustice incompréhensible. Les pompiers avaient fait l'éloge de son courage et l'avaient félicité de la façon dont elle avait réagi. Il aurait suffi qu'elle ouvre ou même entr'ouvre la porte pour essayer de secourir ses parents, elle aurait été happée par les flammes. pourtant, elle avait du mal à ne pas se sentir coupable. Et maintenant, qu'allait-il lui arriver? Allait-on vraiment l'envoyer chez une étrangère en Afrique du Sud? Elle aperçut une enveloppe blanc-crème sur le bureau de M. Gris, une enveloppe qui avait un je ne sais quoi de familier. Elle la prit et examina l'adresse au dos. Elle était rédigée au stylo plume dans une belle encre bleue, et Juliette lut « Gwen Thomas, réserve animalière de Sawumbona, province du Cap, Afrique du Sud ». Elle fouilla dans sa mémoire. Où donc avait-elle vu cette écriture? Peu à peu, cela lui revint. Depuis toujours, elle avait vu sa maman ouvrir les mêmes enveloppes, régulièrement, environ tous les mois. Elle n'en avait jamais parlé avec elle, mais Juliette percevait toujours un léger changement chez sa maman quand elle avait lu la lettre. Elle souriait plus volontiers, riait plus spontanément. Assise toute seule au milieu des dossiers poussiéreux de M. Gris, Juliette était d'autant plus désemparée que sa maman ne lui avait jamais dit que les lettres venaient de sa grand-mère, ni même qu'elle avait une grand-mère. Pourquoi un tel secret? Elle réfléchit à la signature, Gwen Thomas. Quelle sécheresse! Elle avait du mal à comprendre qu'une personne avec un nom pareil puisse être sa grand-mère. Encore moins qu'il faudrait peut-être qu'elle l'appelle grand-mère, ou pire encore, bonne maman. Elle n'arrivait même pas à l'imaginer s'appeler Gwen. Bizarrement, seul son nom complet, Gwen Thomas, parvenait à s'imprimer dans sa tête. Monsieur Gris revint dans le bureau en secouant la tête. « J'ai bien peur que tu n'aies pas beaucoup le choix. J'ai réussi à trouver un lit disponible dans le foyer de Peur Bliquet. « Ne vous inquiétez pas. Finalement, j'accepte. J'ai décidé d'aller en Afrique du Sud. »« Bien ! Voilà qui résout la question !» s'exclama M. Gris, profondément soulagé. Tout le monde autour de Juliette était beaucoup plus excité qu'elle-même face à la nouvelle vie qui l'attendait. « Une réserve en Afrique ?» s'exclama Miss Rose, non sans effroi. « Imagine, Juliette, c'est comme si tu allais vivre un safari permanent. » « Il faudra que tu sois très vigilante, renchérit Madame Morrison. « Prends surtout garde aux tigres, ils dévorent les êtres humains. « Mais, dis-moi, c'est une sacrée aventure, non ?» Juliette riait en douce. Madame Morrison était la femme la plus adorable qui soit, mais elle ne connaissait rien aux animaux. « Il n'y a pas de tigres en Afrique, » dut-elle lui répéter, « sauf dans les eaux. » Il faut bien avouer qu'à part ce point précis, Juliette ne connaissait pas grand-chose à l'Afrique elle non plus. Quand elle essayait de s'en faire une idée, elle imaginait d'immenses plaines aux tons chauds, des arbres parasols, des mangues, des visages noirs et un soleil brûlant. Elle se demandait si les animaux sauvages erraient dans les rues et si elle pourrait un jour en apprivoiser un. Sa maman était allergique aux animaux, si bien qu'on l'avait toujours éloignée d'eux. Mais depuis sa plus tendre enfance, Juliette rêvait d'en avoir un à elle. Peut-être pourrait-elle avoir un singe. Elle se rappela le ton de la lettre de sa grand-mère et aussitôt eut cette sensation de chute violente qui l'oppressait parfois. Gwen Thomas n'avait pas l'air d'être le genre à accepter un primate dans son salon. Encore fallait-il qu'elle ait un salon. D'après ce qu'elle savait sur sa grand-mère, celle-ci pouvait aussi bien vivre dans une hutte empisée. À l'école, la majorité de ses camarades semblait avoir oublié que 3 semaines seulement s'étaient écoulées depuis l'incendie de sa maison et que son départ en Afrique n'était pas vraiment un choix. « Tu as trop de la chance !» lui disait-il. « Tu vas pouvoir apprendre à surfer et plein d'autres trucs, c'est trop cool !» En les écoutant, Juliette se dit que son départ en Afrique avait au moins un avantage. Elle n'aurait plus à franchir les portes de Bodley Brook Junior, une école sinistre où elle ne s'était jamais sentie à sa place. D'ailleurs, en y réfléchissant, elle ne s'était jamais sentie à sa place nulle part où il y avait des enfants de son âge. Mais quand ses parents étaient là, ce n'était pas. Son papa était médecin et travaillait beaucoup, jusque tard dans la journée. Mais en été, ils prenaient de vraies vacances et ils allaient camper en famille en Cornouailles. Sa maman en profitait pour peindre pendant que Juliette allait pêcher et nager avec son papa. Parfois, il prenait même le temps de lui enseigner quelques notions de secourisme. Le week-end, ils sortaient, quel que soit le temps, ou passaient de bons moments chez eux, ne serait-ce qu'en préparant des pancakes. Hélas, tout ça était fini, et Juliette éprouvait un grand vide au fond de son cœur. Le samedi matin, la veille de son départ pour le Cap, Miss Rose l'emmena à Londres pour lui acheter des vêtements d'été. Un crachin gris et glacial tombait, et Oxford Street était envahie par une foule de consommateurs effrénés qui se flanquaient des coups de parapluie dans les yeux. Pourtant, rien ne semblait arrêter l'enthousiasme de Miss Rose. « Regarde ce short trop mignon » s'exclama-t-elle au milieu des clients qui se pressaient chez Gap. « Et cette casquette de baseball, je t'imagine tellement bien avec ce t-shirt rouge à rayures. » Juliette l'a laissé faire. En vérité, elle se sentait mal. Elle avait des spasmes nerveux dans le ventre et la bouche desséchée par l'angoisse face à ce qui l'attendait. « Comme vous voulez !» répondait-elle chaque fois que Miss Rose lui proposait un nouveau vêtement. « Oui, oui, c'est sympa. Oui, oui, je suis sûre que ce sera très bien. » Quelques instants plus tard, toutes deux sortirent du magasin avec deux shorts en toile kaki, un jean, quatre t-shirts, une casquette et une paire de chaussures de marche bien solides, couleur poil de chameau. Juliette n'avait dû s'opposer à Miss Rose qu'une fois, quand elle avait insisté pour lui acheter une robe à fleurs. Elle avait des cheveux châtains coupés très courts et des yeux verts pétillants, et elle refusait de porter des robes depuis l'âge de 5 ans. Ce n'était pas aujourd'hui qu'elle allait commencer. « Il faut que je sois protégée contre les morsures de serpent, » dit-elle à Miss Rose. « Tu ne crois pas qu'avec un short c'est aussi risqué ?»« Si, mais ce n'est pas pareil. Vous avez déjà vu un explorateur porter autre chose qu'un short ?» Le soir, de retour dans le Hampshire, Miss Rose prépara un dîner d'adieu pour Juliette. Poulet rôti avec pommes de terre sautées, petits pois frais du jardin et sauce à l'oignon, et pudding du Yorkshire fait maison pour le dessert. Elle avait invité M. et Mme Morrison, qui offrirent à Juliette une paire de jumelles ayant appartenu à un vieil oncle de la famille. « C'est pour t'aider à repérer les gros félins, » commenta Mme Morrison. Juliette fut très touchée, surtout lorsque Mme Morrison lui donna une grosse part de gâteau au chocolat, soigneusement emballée dans une petite boîte pour le voyage. « Je te souhaite tout le bonheur possible, ma chérie. N'oublie pas que tu auras toujours ta chambre chez nous. » M. Morrison acquiesça en grognant. Il n'était pas du genre bavard. Mais au moment où sa femme se détourna pour remercier Miss Rose, il enfouit la main dans la poche de son manteau et sortit une boîte en bois gravée. « Pour te protéger, » dit-il à mi-voix en la remettant à Juliette. Et il alla ouvrir la portière de sa voiture avant d'allumer le moteur. « On y va, mon amour, » lança-t-il à sa femme. « À bientôt, Juliette. » Juliette attendit d'être seule dans la chambre d'amis pour ouvrir la boîte. Elle eut alors la surprise de découvrir une torche rose de la marque Maglite, un couteau suisse et une trousse de premier secours. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle étala tous les objets sur son lit et passa un long moment à lire le manuel d'instruction qui était joint. Elle était à la fois ravie et émue par la générosité de tous. Elle rangea les cadeaux, éteignit la lumière et s'allongea sur son lit. La pleine lune rayonnait derrière la fenêtre et projetait un long ruban argenté dans la pièce. Elle se sentait de plus en plus excitée. Demain soir, elle serait dans l'avion à destination de l'Afrique, prête à entamer une nouvelle vie qu'elle avait de la peine à imaginer. Le destin venait de tourner une page de son passé, pour le meilleur et pour le pire.